Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 1, voici ce que nous lisons. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux partisans de la mutilation. Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Mais pourtant, j'aurai des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres considèrent qu'ils peuvent mettre leur confiance dans la chair, à plus forte raison, moi. Circoncis le huitième jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant à la passion, persécuteur de l'Église. Quant à la justice de la loi, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Au verset 15. Si donc nous sommes des gens accomplis, parfaits selon les traductions, tenons-nous-en à cette pensée. Et si, sur quelques points, vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Mes frères, imitez-moi et portez le regard sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous, car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant j'en parle en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous pour qui j'ai une vive affection, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et Père, rends-nous disponibles à écouter ta voix. Ta parole est la vérité, Seigneur, qu'elle nous façonne, qu'elle nous corrige, qu'elle nous instruise, pour mieux t'aimer, mieux te servir, Seigneur. Amen. Je vous invite à reprendre place. Le bonheur, il est où ? Rivo a posé la question tout à l'heure, en référence, me semble-t-il, à une certaine chanson qui tourne sur nos radios. Alors, vous connaissez peut-être ce titre et les paroles de ce chant d'un artiste un tout petit peu célèbre qui n'a pas encore eu le prix Nobel de la littérature. Le titre, c'est « L'envie d'avoir envie ». Et une strophe dit ceci. « On m'a trop donné ». Alors, j'imagine que ça trouve, ça trotte dans votre tête, vous imaginez l'air. Bien avant l'envie, j'ai oublié mes rêves et les merci. Pardon les jeunes, c'est d'un autre temps. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. L'envie d'avoir envie. Drôle de refrain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais qui a le mérite de nous poser une certaine question. Qu'est-ce qui nous met en route? Qu'est-ce qui nous met en marche en tant qu'individu et en tant qu'Église? En ce moment, lorsque je demande quelque chose à mes enfants, un petit service, ou simplement l'obéissance, ils disent « j'ai pas envie ». Je n'ai pas envie. Autrement dit, je ne vois pas davantage à ce que tu me dis de faire. Je n'ai pas forcément de grande motivation pour le faire non plus. Est-ce que vous avez de l'entrain ce matin? De l'enthousiasme pour marcher? Oui? Non? Parce que je dois dire, c'est pas forcément facile. Dans ce monde où fleurit la haine, où sonnent creux les batailles et les discours politiques, où les tentations fanatiques ont bon vent, dans ce brouhaha médiatique, avec des catastrophes en tout genre, la police en grève, Imaginez ça. Les soignants en mal-être, les menaces d'attentat, les affaires de nos élus, les meurtres, les règlements de compte à Marseille, toujours à Marseille d'ailleurs. Alors bon, ça nourrit nos pensées, tout ça. Heureusement, il y a l'Église. Il y a l'Église. L'Église pour me remettre en route. Ouais, mais l'Église que je fréquente n'est pas parfaite. Elle est trop comme ci, pas assez comme ça. La louange est pas assez comme ci, trop comme ça. La prière est trop comme ci, pas assez comme ça. Les prédications sont trop comme ci, pas assez comme ça. Bref, toutes ces pensées nous mettent-elles en marche? Nous mettent-elles en marche? Il me semble qu'elles visent plutôt à nous freiner et à ralentir notre marche. Et Paul, dans cette épître qu'il adresse aux Philippiens, en a bien conscience. Car ce qui nous met en marche, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nos pensées, notre disposition. Et les Philippiens ont bien des occasions d'avoir des pensées difficiles. Ils ont les menaces de l'extérieur et aussi de l'intérieur, ces faux enseignants que Paul va dénoncer. Alors nous poursuivons cette série de prédications sur une église en marche et je vous invite ce matin simplement à nous attarder un tout petit peu sur les pensées, sur ce qui doit nourrir notre église, ce qui doit nourrir notre marche. Et avant cela, je voudrais juste faire un petit avertissement, comme un petit bandeau publicitaire. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire ce matin. Mais examinez toutes choses, comme disait l'ancien doyen de la faculté de Vaud, et retenez ce qui est bon. J'aimerais simplement définir ou penser notre marche chrétienne avec deux points. La marche chrétienne, une nouvelle orientation de vie, dans un premier temps, et ensuite, la marche chrétienne comme une vie en tension. Une marche chrétienne, une nouvelle orientation de vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont Paul décrit les faux enseignants. Il n'y va pas de main morte. Une véritable attaque en règle. Les chiens, animaux impurs pour l'époque. On est loin du joli caniche ou du beau Yorkshire avec son petit nœud. Mauvais ouvriers, partisans de la mutilation, certainement une allusion à la circoncision, qui était prônée comme condition indispensable pour certains, pour être juste devant Dieu. Des ennemis de la croix. Bref, Paul, il ne va pas de main morte. Mais juste une petite remarque préalable. Avez-vous remarqué dans quelles conditions Paul écrit cela? Est-ce qu'il l'écrit avec une certaine jalousie de la réussite de ses faux enseignants? Je ne crois pas. Il va montrer qu'humainement, de façon terrestre, il aurait bien des occasions de s'enorgueillir, avec la circoncision le huitième jour, et j'en passe. Ce n'est pas par jalousie, ce n'est pas par condescendance, c'est en pleurant. C'est en pleurant qu'il écrit. Parce qu'il voit chez ses faux enseignants, lui-même, il y a quelques années, derrière ses canidés, ses mauvais ouvriers, il n'est rien d'attitude condescendante. Il est la profonde tristesse de voir des personnes se perdre. Alors, qui sont ces faux enseignants? Qui sont-ils? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à part le qualificatif, ils ne sont pas nommés. On connaît que vaguement leur enseignement, mais on y en verra. Ils ne sont pas nommés. Les exemples positifs dans l'épître de Paul aux Philippiens le sont. Épaphrodite, Timothée. Mais ces faux enseignants, non. Alors pour savoir qui ils sont, peut-être nous allons voir ce qu'ils enseignent. Qu'enseignent-ils donc? Deux interprétations possibles. Soit il s'agit d'une éthique de vie assez laxiste, l'esprit de l'homme a reçu l'illumination du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le protège, alors le corps, bon, allons-y gaiement. Première interprétation. Ou la deuxième interprétation serait les partisans de pratiques juives, dont la circoncision est un signe, indispensable, y compris pour les chrétiens d'origine païenne, pour être déclarés justes devant Dieu. Alors il serait possible de trancher, d'aller creuser un tout petit peu le texte. Mais il me semble plus opportun de mettre en lumière ce que Paul dit, notamment dans les versets 18 et 19. Et encore une fois, Paul n'est pas tendre. Il n'est pas tendre avec les conséquences que c'est de suivre ces faux enseignants. La finalité, c'est la perdition, bonnement et simplement. Et leur Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Comment comprendre cela ? Placer son ventre en position d'idolâtrie, de divinité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là encore, deux interprétations possibles. S'agit-il d'une allusion aux nombreuses pratiques alimentaires et corporelles que ces judaïsants, ces partisans de pratiques juives, cherchent à imposer ? Ou plutôt de la dénonciation d'une vie de débauche, d'excès alimentaires en tout genre, etc. etc. Faut-il trancher ? Il se pourrait, mais je n'ai pas envie ce matin de trancher sur cette question, mais bien plutôt de réfléchir à ce qu'ils font de leur ventre, ces amis-là. Ils en font un dieu. Ils placent leur fierté dans des réalités terrestres, que ce soit des bonnes pratiques juives ou ce soit des excès alimentaires en tout genre. Ils placent leur ventre, les pratiques alimentaires, au cœur de leur vie. Et ils en sont fiers, semble-t-il. Ils sont des ennemis de la croix, nous dit Paul. Alors, ça pourrait nous inciter à nous poser la question, mais qui sont les ennemis de la croix aujourd'hui ? Faut-il les chercher, fouiner, faire la chasse aux sorcières ? Certains ont certainement une idée là-dessus. Mais il me semble, Paul, que Paul nous invite à aller un tout petit peu plus loin. Et d'abord à considérer qui nous sommes dans notre union à Christ, avant même de nous poser ce genre de questions. Car c'est dans notre union à Christ, finalement, que se joue notre agir, notre éthique, notre façon de vivre, ce qui motive notre marche chrétienne. Et il va le faire en trois points. Le premier point que nous trouvons au verset 3, avec une affirmation qui pourrait paraître assez étrange si elle ne venait pas d'un homme d'origine juive, c'est nous qui sommes les vrais circoncis. Nous sommes les vrais circoncis. Affirmation quand même étonnante. Étonnante. Mais ne fait-il pas simplement ici allusion à ce que Dieu avait promis ? La circoncision des cœurs par ses prophètes, Jérémie, Ézéchiel. Cette réalité d'une incapacité profonde de l'homme à être fidèle à Dieu. Oh oui, il se faisait circoncire, et puis combien était ensuite difficile l'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu. Tout simplement parce que le cœur à l'intérieur était tortueux. Combien c'était difficile. Mais Dieu avait promis qu'un jour viendrait où il inscrirait dans le cœur des hommes sa loi, qu'il donnerait son esprit pour nous rendre capables de lui obéir. Et c'est ce qu'il est en train de dire, Paul. Nous ne sommes pas mieux que les autres, nous avons simplement conscience d'être sauvés par la grâce et d'avoir reçu l'Esprit Saint qui nous permet d'obéir à Dieu. Et cette réalité, cette présence de Dieu dans le cœur de chacun de nous doit tout modifier. Cette circoncision du cœur doit rayonner sur toute notre vie. Le curseur de notre vie est modifié. Notre fierté est modifiée. Peut-être que vous connaissez cette histoire d'une jeune personne qui un jour veut prendre un rendez-vous avec son pasteur pour lui parler d'un petit péché, tout petit. Bon. Elle prend donc rendez-vous avec ce pasteur et lui dit « Pasteur, je suis devenu conscient d'un péché dans ma vie que je ne peux pas contrôler. Je n'y arrive pas. » Alors le pasteur lui dit « Ben, dites-moi. » Eh bien voilà, chaque fois que je suis à l'église, je commence à regarder autour de moi et je me rends compte que je suis la plus jolie personne de toute l'assemblée. Aucun des autres ne peut rivaliser avec ma beauté. Pasteur, que puis-je faire au sujet de ce péché ? Et le pasteur de lui répondre, ma chère enfant, ce que tu nous dis là n'est pas un péché, mais simplement une erreur de jugement. Placer sa fierté sur ses réalités terrestres. Oui, Paul nous dit que nous pouvons être fiers. Je suis fier de l'Évangile, dit-il dans l'Épître aux Romains. Nous pouvons être fiers en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que simplement, nous sommes unis à lui, nous sommes au bénéfice de ce qu'il a fait pour nous. Face à Christ, les réalités terrestres paraissent fades. Tout devient fade. Pour autant, nous pouvons être fiers, dit-il. Nous sommes circoncis de cœur, mais qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est d'être sauvés par la grâce, d'avoir le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu ? Nous ne méritons rien. Alors cette fierté est loin d'être un orgueil. C'est simplement une attitude, une conscience d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Premier point, circoncis de cœur. Deuxième point sur notre identité, que nous trouvons au verset 15. Nous sommes, dit Paul, des gens accomplis, parfaits, autrement dit, selon les interprétations, ou spirituellement mûrs. Nous sommes parfaits, les amis. C'est super, non ? Ça donne de l'élan. Je suis fier de l'Évangile, et nous sommes parfaits. Alors le problème, Paul, c'est qu'au verset 12, tu nous avais dit ne pas être parvenu à la perfection. Et là, tu nous dis que toi et les Philippiens, vous êtes parfaits et que nous sommes, par écho, parfaits. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, là ? Comment comprendre cette apparente contradiction ? Pour la comprendre, je voudrais vous raconter encore une petite histoire, et ce sera la dernière. C'était un homme parfait. Peut-être que vous connaissez cette histoire. Je vais me faire maudire, je pense, ce matin. Un homme parfait rencontre une femme parfaite. Ils vivent une rencontre parfaite, un mariage parfait. Leur vie commune est parfaite, en tout point. Un soir, à la veille de Noël, il y a beaucoup de neige et d'orage. Ce couple parfait conduit une voiture parfaite et à peu près parfaitement droit, malgré la route assez glissante. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a quelqu'un sur le pas de la route, là, un peu perdu, abandonné. Et il s'agit du Père Noël, avec tous ses jouets. Il est en panne, le pauvre. Alors, ne voulant pas décevoir tous les enfants à la veille de Noël, le couple parfait prend ce Père Noël dans leur voiture parfaite pour rouler vers un chemin parfait. Malheureusement, les conditions de route se sont détériorées. Et le couple parfait et le Père Noël ont eu un accident. Un seul d'entre eux a survécu à l'accident. Qui était le survivant, selon vous ? Vous avez le droit de répondre. Et si vous ne trouvez pas, je vais vous la donner. Pardon, mesdames, mais il s'agit de la femme parfaite. Parce que tout le monde sait qu'un homme parfait et que le Père Noël n'existent pas. Mais attendez, messieurs, attendez. Attendez. Parce que s'il n'y a pas d'homme parfait, et si le Père Noël n'existe pas, c'est donc que la femme parfaite était au volant. Ce qui explique l'accident. La perfection, est-ce cela ? Est-ce cela ? Est-ce mener une belle vie ? Il me semble que lorsque Paul nous dit que nous sommes parfaits, c'est justement pour nous dire autre chose. Pour nous dire que nous sommes simplement, parfaitement imparfaits et imparfaitement parfaits. Vous me suivez ? Chrysostome disait « La marque de l'homme parfait, c'est de ne pas se reconnaître comme parfait, justement. Ne pas se reconnaître comme parfait. La perfection, être accompli, la maturité spirituelle, c'est avoir bien conscience que nous ne sommes pas arrivés. Avoir conscience humblement de qui nous sommes, pour pouvoir nous concentrer sur l'essentiel, en laissant à chacun le temps de cheminer avec le Christ. Vous connaissez ce verset de Matthieu 5. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et puis Jésus de conclure, vous serez donc parfaits ainsi, comme votre Père céleste est parfait. Être parfait comme Dieu. Voilà un défi difficile. Pouvoir aimer, pardonner celui qui n'est pas pardonnable, pas aimable. Alors vous allez me dire, imiter Dieu, c'est chose impossible, parce que c'est Dieu et nous sommes sur la terre. Mais Paul nous dit, mais regardez à Jésus, Philippiens 2. Regardez à Jésus, modèle d'humanité. Oui, mais vous allez dire, mais Jésus est aussi à la fois homme et à la fois Dieu. Alors c'est difficile. Alors Paul dit, ben, regardez-moi, imitez-moi. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller des vertus de Paul, mais simplement de prendre conscience de cette réalité que nous sommes imparfaitement parfaits et parfaitement imparfaits. Troisième et dernier point qui concerne notre identité, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens d'une patrie qui n'est pas encore là, qui est à venir. Et tout cela doit orienter notre manière de vivre. Au verset 7, voici ce que en conclut l'apôtre Paul. Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Prendre conscience de ces trois réalités, circoncis de cœur, sauvé par la grâce, le privilège d'avoir l'Esprit en son cœur, être parfaitement imparfait, et ensuite être citoyen des cieux, tout ça doit modifier forcément notre orientation de vie, produire un changement radical. Car le discours chrétien est nécessairement radical de ce fait-là. Forcément, une alternative, un discours alternatif, toujours être là où on ne nous attend pas, comme le Christ. Avec qui mangeait-il? Qui a-t-il guéri? Qui a-t-il va et ne pêche plus? À qui a-t-il dit ça, si ce n'est à une femme adultère? Et parfois, malheureusement, nous nous sentons presque piégés par l'identité que nous nous collons. Et parfois, je dois dire qu'on a tendance à s'engouffrer dans ce que le monde attend de nous. Ah, vous êtes chrétien? Alors vous êtes pour ceci ou contre cela? Vous êtes pour le mariage, contre l'homosexualité, contre le concubinage, contre l'avortement? Et se dressent alors des palissades autour de nous. Nous sommes cachés derrière ces palissades que l'on veut bien nous coller. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas être contre ou avoir des convictions profondes. Ce n'est pas ça que je dis. Mais le risque, c'est que ça rend notre message inaudible. Notre évangile devient inaudible parce qu'on s'y engouffre assez systématiquement. Avez-vous remarqué les reportages qui sont faits, notamment sur les évangéliques? Quels sont les trois pièges que tendent les médias? Que pensez-vous de l'homosexualité? Que pensez-vous de l'avortement? Et que pensez-vous de l'islam? Et les gens s'y engouffrent. Je ne dis pas que c'est facile de ne pas s'y engouffrer. Je dis qu'on nous colle un certain nombre d'étiquettes qui peuvent rendre notre message inaudible. Et il faut garder, chers amis, comprenez-moi bien, nos convictions fermes, mais réfléchir à la façon dont nous transmettons les choses. Ne nous trompons pas de combat, chers amis. Ne nous trompons pas de combat. Nous ne cherchons pas à établir une société chrétienne, un État chrétien. Nous sommes déjà citoyens d'une réalité céleste. Ne nous trompons pas de combat. Notre combat, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Alors oui, il faut agir dans la cité. C'est une évidence. Mais n'oublions pas ces réalités-là quand nous approchons de nos contemporains. Nous ne sommes pas parfaits par nous-mêmes. Nous ne sommes pas parfaits par nous-mêmes. Alors Paul continue un tout petit peu et nous invite à aller un petit peu plus loin, à réfléchir à partir de ce que nous sommes pour conduire notre marche chrétienne. Il dit, au point où nous en sommes, avançons ensemble. Lorsque je comprends bien ces réalités, qui je suis, que je suis au bénéfice de la grâce, que je suis imparfaitement imparfait, alors ça va changer un tout petit peu mon regard sur les autres. Je vais pouvoir comprendre les aléas des personnes qui m'entourent. Nous sommes soumis à la même vanité des choses. Nous pensons certes, certainement de façon différente, mais nous sommes conscients que c'est seulement en Christ que nous sommes différents. Alors, plutôt que de dire, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi sur ce point, la Bible dit que, sur tel ou point éthique ou moral, disons plutôt à ceux qui nous posent ces questions, « Chers amis, avançons ensemble. » Et que Dieu aussi te révèle le chemin qui te reste à parcourir. Il ne s'agit pas de dire et de taire ce que dit la Bible, mais plutôt de rejoindre l'autre dans son humanité, dans ses fragilités. Ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu as fait, j'en suis conscient, ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Même si souvent, les personnes ont bien conscience de cette volonté de Dieu. Mais je viens de te rejoindre, cher ami, conscient d'être sauvé par grâce, d'être parfaitement imparfait. Je viens te rejoindre là où tu en es et avançons ensemble, dans la confiance que le Seigneur, par son esprit, peut te révéler progressivement et à travers moi peut-être, à travers une lecture commune de la Bible, ce qu'est sa volonté. Chers amis, il ne s'agit pas de bénir à tout va, mais d'accueillir et d'accompagner la personne en sachant que cette personne, comme Paul, quand il pleurait face à ses faux enseignants, sans oublier que ces personnes qui sont face à nous, nous étions comme elles, des simples pécheurs parfois perdus. Parfois perdus. Je me souviens, quand j'étais étudiant, j'étais chrétien engagé, et un ami le savait. Cet ami vient me voir un jour pour m'avouer son homosexualité, de façon assez ostentatoire, de façon un peu provocante. Qu'est-ce qu'il fallait faire, là ? Répondre en disant « la Bible dit que » ? Briser l'amitié, couper court à toute possibilité de dialogue, en me réfugiant derrière un verset, ou avancer ensemble avec cette personne, et l'aider, l'accompagner, l'éclairer sur sa façon de vivre. Avançons ensemble. Il y a aussi le cas d'une personne assez proche, qui était enceinte il y a peu de temps, et qui voulait interrompre sa grossesse. Elle me pose la question, « Toi qui es un homme de Dieu, peux-tu me dire ce que Dieu dit de ça ?» La Bible dit que l'avortement est proscrit. On n'est pas maître de nos vies. J'aurais pu dire ça. Mais la personne le savait déjà, ça. Et alors simplement, nous avons avancé ensemble, regardé ce qui faisait obstacle. Et par cet éclairage assez simple, elle a pris sa décision, en conviction. Mais si j'avais dit simplement « la Bible dit que » et point barre, alors le dialogue aurait été interrompu. Et certainement, elle aurait cheminé à sa façon, en entendant d'autres chants. Chers amis, ce que nous sommes, prendre conscience de notre profonde identité chrétienne, la circoncision du cœur, l'imperfection, la citoyenneté d'une patrie céleste, tout ça doit orienter notre éthique et surtout notre façon de nous approcher de nos contemporains. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Pas meilleurs qu'eux. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Deuxième point, et là j'irai un tout petit peu plus vite. La marche chrétienne comme une vie en tension. Ces adversaires de Paul vivaient déjà une certaine réalité spirituelle des choses, selon eux. Ils vivaient dans une gloire, plus de souffrance, selon eux, plus de persécution. Mais l'apôtre Paul dit non. Nous vivons dans une certaine tension. La première tension, c'est nos œuvres ou ce que nous faisons. Dieu est à l'œuvre, il l'a dit Paul, maintes et maintes fois dans l'Épître aux Philippiens. Mais parfois, il faut bien avouer que nous avons l'impression de ne pas beaucoup avancer sur le chemin de la perfection, même parfois regresser un tout petit peu. Mais Paul nous partage cette profonde conviction que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Il nous invite à vivre cette tension dans la confiance, en prenant conscience que c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Deuxième tension, c'est l'attente. Attente du Christ. Attente de cette patrie céleste qui viendra un jour. Alors il nous faut marcher vers elle, avec impatience. Et on ne la voit pas, c'est en cela que c'est aussi difficile. Et nous sommes aux tensions. Il y a ces réalités terrestres qui sont autour de nous, parfois très tentantes, mais il y a notre citoyenneté qui est dans les cieux. Et nous vivons avec cette tension. Deuxième tension, c'est une vie en espérance. Chers amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, nous ne sommes pas encore glorifiés. Malheureusement, nous vieillissons, nous souffrons, nous mourons, nous ne sommes pas encore arrivés. Et parfois, certains voudraient vivre comme si nous étions déjà au paradis, mais nous n'y sommes pas. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle que nous donne Paul, c'est qu'un jour, et le jour où le Christ reviendra, alors nous serons comme lui, glorifiés. Il n'y aura plus de mort, plus de souffrance. Mais en attendant, il nous faut marcher avec cette tension, en ayant bien conscience de qui nous sommes. Il nous faut marcher, même courir vers cette ligne d'arrivée, cette patrie céleste qui vient. Nous savons d'une certaine façon de ce qu'elle sera, avec qui nous y serons, mais nous ne savons pas quand. Alors il nous faut courir dans la persévérance, courir à la suite du Christ, en acceptant la souffrance, en acceptant la vanité de ce monde parfois, en acceptant la mort. Il nous faut aussi courir en étant vigilants sur ce qui nourrit nos pensées. La parole de Dieu nous doit nourrir notre pensée, ce que nous sommes profondément. Il nous faut courir aussi en discernant ce que nous entendons, ce que nous écoutons. Courir en tenant ferme sur nos convictions chrétiennes, mais en apprenant à les communiquer avec grâce et amour. Courir, enfin, en acceptant que la couronne, la gloire ne sont pas encore présentes, mais qu'elles viennent. Amen. Je voudrais vous inviter à prier un instant. Notre Dieu et Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Mais face à elle, nous devons bien reconnaître combien nous sommes inconséquents, combien nous sommes parfois prompts au jugement, à la condamnation, en oubliant, Seigneur, qui nous sommes, des enfants de la grâce. Nous te demandons pardon. Nous te demandons aussi de nous aider à courir, à marcher ensemble. Aide-nous par ton esprit, Seigneur, à tenir ferme dans ce monde si réel, en proie à bien des difficultés. Aide-nous, Seigneur, à être comme toi dans ce monde. Amen.